Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. La revue dessinée a fêté ses 10 ans en 2023, l'occasion pour Fred Michel d'aller à la rencontre de Franck Bougeron et de Sylvain Ricard. Ils reviennent tous les deux sur cette formidable aventure éditoriale, une interview enregistrée lors de la dernière édition du festival Quai des Bulles à Saint-Malo.
Bonjour Sylvain Ricard.
Bonjour.
Bonjour Franck Bougeron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle, toujours depuis Saint-Malo. Aujourd'hui, on va parler de la revue dessinée qui, cette année, fête ses 10 ans. Alors, cette revue, comment est-elle née ?
Eh bien, cette revue, elle est née en 2012, finalement, donc il y a 11 ans, quand Franck, un soir de festival, je ne sais plus dans quel festival il était, a envoyé un mail à ses plus proches copains en disant « Écoutez les gars, on ne va pas passer notre vie à sortir des bouquins, à les regarder vivre 2 semaines en librairie et à se remettre 8 mois derrière nos bureaux, à vivre comme des moines copistes. Faisons quelque chose ensemble autour de ce qu'on aime faire. Et qu'est-ce qu'on aime faire ? On aime la bande dessinée, on aime l'information. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose autour de la bande dessinée et de l'information ? Et c'est comme ça qu'est née l'idée.
Sur un coin de table.
Un peu dans un coin de la tête de Franck, finalement. Certains des amis n'ont pas répondu, ont dit que ça les intéressait relativement moyennement et qu'ils préféraient continuer leur carrière d'auteur. Et puis d'autres, comme moi, mais pas seulement, on a dit, bah ouais, c'est une bonne idée, allons-y. Et puis on s'est mis à travailler et puis la revue a pris plusieurs formes, d'abord numérique, et puis ensuite on s'est dit, bah non, c'était pas numérique. Puis on avait l'exemple de 21, qui était quand même un trimestriel qui fonctionnait très bien. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une revue trimestrielle de journalisme dessiné, et puis on va tester, on va voir si on trouve un financement, et puis on va voir si le public est réceptif ou non. Puis c'est comme ça qu'est né le projet.
Je vais rappeler quand même que vous êtes parti de vraiment rien du tout, parce que vous, c'était pas votre métier, votre domaine de gérer ce genre de revue, c'est quand même quelque chose de lourd à gérer. Donc c'était au départ quelque chose de complètement artisanal.
Alors c'était de toute façon complètement artisanal, parce qu'on était, même si on avait eu quelques apports financiers, on n'avait pas d'argent, nous. Donc, on avait de quoi financer le numéro 1 et le numéro 1 était censé financer le numéro 2, etc. Par contre, Franck et moi, on avait quand même un petit peu d'expérience de gestion, de projet, de structure à petite échelle avec 5, 10 personnes. Moi, dans un domaine scientifique, lui, dans un domaine artistique.
Qui n'avait rien à voir avec la bande dessinée.
Moi, ça n'avait rien à voir avec la bande dessinée. Franck, oui, parce qu'il faisait de la réalisation de dessins animés. Donc, il connaissait un petit peu quand même le sujet. Mais enfin, moi, j'étais auteur de bande dessinée déjà à l'époque et Franck aussi. Donc, on avait quand même un petit peu cette expérience-là de direction finalement, et c'est comme ça qu'on a lancé le truc. Chacun en a pris ce qu'on savait faire, c'est-à-dire Franck s'est occupé énormément de tout ce qui était artistique et puis a lancé finalement la ligne éditoriale de la revue dessinée, et moi je me suis occupé avec lui de la ligne éditoriale de la revue dessinée, mais beaucoup de tout ce qu'il y avait autour, toute la logistique, tout ce qu'il a fallu mettre en place pour que ça puisse fonctionner.
Donc il y avait beaucoup d'audace.
Il y avait beaucoup d'inconscience, je dirais, parce que oui, on faisait un pas, ça marchait, on tombait pas, on faisait un autre pas, et puis voilà, et puis on s'est mis à marcher tranquillement, et puis le public était là, les auteurs nous ont suivis, puis financièrement ça tenait à peu près la route, c'était pas non plus, on a toujours pas, hein, les salaires sont quand même relativement modestes et tout ça, mais malgré tout, ça vit et ça continue à vivre, et maintenant on a quand même sur la structure Topo, la revue dessinée, et avec les bouquins, on est une petite quinzaine, on va dire, quand on est en période de rush, au moment où on fait les bouclages, on a une petite quinzaine, donc c'est pas si mal.
Maintenant, c'est vraiment professionnel, au bout d'un an, c'était déjà professionnel.
Ah oui, de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça avec les moyens de quelque chose d'un petit peu plus fanzine, un petit peu plus amateur, c'est-à-dire avec des gens qui sont là, mais qui sont pas vraiment là, ou qui décident de partir, ou sans financement, ou choses comme ça. Non, il a fallu professionnaliser tout de suite l'aventure pour qu'elle puisse exister réellement, quoi. Alors on a été beaucoup aidés, évidemment, hein, les libraires nous ont beaucoup supportés, on a eu de la presse, on a eu des...
Voilà, ça a marché très vite, hein.
Alors le numéro 1, évidemment, c'est souvent le numéro 1 d'ailleurs qui marche très très bien, puisqu'on a dû le réimprimer assez rapidement, puis qu'on a eu une base d'abonnés tout de suite, dès le numéro 1, on avait 500 abonnés, puis on a
donc
pris...
Je faisais partie.
Mais bravo, félicitations. Et puis numéro 2, et puis numéro 3, etc. Puis on grandissait toujours le nombre d'abonnés sans perdre en librairie. D'ailleurs, on n'a toujours pas perdu en librairie, on est toujours à peu près sur les mêmes volumes en librairie, et maintenant on est à 12 000 abonnés, donc c'est un petit peu mieux quand même. Et c'est ce qui nous a permis de nous développer un petit peu, de fidéliser des gens, des auteurs, de faire un certain nombre d'écarts, je ne sais pas si on peut dire des écarts, mais en tout cas, on ne faisait plus que la revue dessinée, mais on a commencé à travailler sur des coéditions, à travailler sur des projets un petit peu à part.
Et plein de déclinaisons, oui.
Ouais, plein de petites déclinaisons, ne serait-ce que par exemple tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, avec les dessins de presse, avec ces choses-là.
Alors, la revue dessinée, elle est bien installée maintenant depuis 10 ans dans le paysage bande dessinée et revue. Mais au départ, c'était complètement novateur, aussi bien au point de vue du format que l'éditorial. Alors, la bande dessinée de reportage, ça existe déjà depuis quelques années. Mais vous, ce que vous avez proposé, c'était vraiment novateur.
Alors, nous, je pense que ce qui a été novateur, alors la bande dessinée du réel, elle existait. On parlait tout à l'heure d'Étienne Davodeau. Il a fait de la bande dessinée du réel, mais il n'est pas journaliste. Il a fait un travail de reportage. C'est son expérience qu'il raconte et qu'il partage avec les lecteurs. Nous, l'originalité, c'est qu'on a systématisé le fait de proposer des duos, un journaliste, un dessinateur, une dessinatrice. Un ou une journaliste, un dessinateur, une dessinatrice. C'est-à-dire qu'on a la rigueur journalistique de façon systématique et on a la rigueur des auteurs de BD qui savent à la fois dessiner, mais aussi raconter. Et donc, c'est pour ça qu'on a finalement, on savait pas très bien comment l'appeler au début, mais on a appelé ça journalisme dessiné. Et on adapte le format, c'est-à-dire qu'on fait pas des gros formats, on adapte le format en fonction de ce que le journaliste a à raconter. Voilà, c'est-à-dire que ça peut faire un sujet qui peut faire 25 pages, d'autres qui vont faire 50 pages. C'est vraiment en fonction des éléments journalistiques qu'on a apportés dans la revue.
Et qui propose les sujets ?
Alors, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs axes. Ça peut venir de la rédaction. Par exemple, quelqu'un qui a dit « Oh, tiens, j'ai vu un documentaire sur ceci, sur cela. C'est formidable. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un journaliste qui pourrait nous en parler ?» Et la plupart du temps, ça vient quand même de propositions qu'on reçoit des journalistes. Alors, de plein de journalistes, de plein de médias différents. Il y a même des fois de journalistes qui sont dans des médias très installés. Hein. Il y a des journalistes de Libé, il y a des journalistes de Mediapart qui ont travaillé avec nous. Il y a évidemment beaucoup de pigistes. Et puis, c'est installé aussi un réseau au bout d'un moment de journalistes en qui on a confiance, qui ont déjà travaillé avec nous et qu'on fait retravailler sur des sujets qu'ils amènent. Donc, le réseau des dessinateurs et des dessinatrices, il est important. Il s'étoffe petit à petit, mais il y a une base qui est quand même relativement solide. Et c'est pareil pour les journalistes.
Et vous avez quand même dû inventer un nouveau vocabulaire pour que les journalistes et les dessinateurs et dessinatrices travaillent ensemble.
Oui, alors, en fait, on fait des mariages. Alors, au figuré, on en a fait quand même un au sens propre. Mais on fait des mariages au figuré, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est à dessiner, on va chercher, nous, des auteurs ou des autrices qui ont une sensibilité à ce qui va être raconté. Ça peut être écolo, ça peut être social, féministe, enquête policière, enfin, ça peut être n'importe quoi. Et on va essayer d'aller trouver quelqu'un qui, à la fois, a l'envie de faire ce type de sujet et aussi qui a un dessin, un graphisme qui peut bien correspondre. Après, le mode de fonctionnement qu'il y a entre les deux, c'est un peu leur tambouille interne. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont peut-être des prédispositions à faire du scénario, qui vont proposer quelque chose que le dessinateur ou la dessinatrice va adapter. Et parfois, ils vont juste fournir un texte brut avec des informations journalistiques et c'est la personne en charge du graphisme qui va développer une narration autour de ça. Voilà.
Parfois, il y a une réécriture.
Absolument, oui, oui.
On va parler aussi du graphisme parce qu'il n'y a pas un seul et unique graphisme chez les dessinateurs. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, clairement.
Oui, nous, on est parti du principe qu'il n'y avait pas de... Pour reprendre un terme de Franck, il n'y a pas de chapelle graphique à la revue dessinée. L'important, c'est que ça soit efficace. C'est que ce soit... En général, c'est plutôt des bons dessinateurs, des bonnes dessinatrices avec lesquelles on travaille, mais que ce soit efficace par rapport à ce qu'on raconte. C'est ça qui importe le plus, finalement. On ne veut pas faire du franco-belge ou on ne veut pas faire de la ligne claire, on ne veut pas faire un style manga. En fait, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le résultat soit agréable à lire, efficace et que tout le monde s'y retrouve, finalement.
Il faut arriver à trouver le bon vocabulaire graphique pour les sujets qu'on traite. Quand vous traitez de l'économie, il faut être très explicite et donc il faut aller chercher, c'est de la direction artistique d'une certaine façon, il faut aller chercher le bon dessinateur pour pouvoir rendre efficient la démonstration qu'on fait en économie, par exemple. Si vous êtes sur un reportage ou une enquête, on est dans un autre registre graphique. Et en fait, c'est ça qui sert de métronome pour notre quête, nous, en tant que direction artistique, pour aller chercher des auteurs. C'est ça qui est important.
Je disais tout à l'heure, parfois journalistes vous proposent des sujets. Est-ce que des dessinateurs, dessinatrices vous proposent des dessins pour rentrer en revue dessinée ?
Oui, ça arrive assez souvent que des gens nous sollicitent, viennent nous voir en disant « j'ai envie de faire de la bande dessinée, de reportage ».
J'adore la revue dessinée.
Oui, exactement, mais c'est assez courant. Ça ne l'était pas au début, maintenant ça l'est. Il y a plein de gens qui, là ici à Saint-Malo notamment, il y a plein de gens qui viennent nous voir avec des dossiers ou qui viennent nous voir en disant voilà, est-ce qu'on peut proposer des dossiers, des choses comme ça ? En revanche, on les marie toujours avec des journalistes.
Comme il y a des duos un peu forcés, est-ce que parfois les journalistes découvrent la bande dessinée, le monde de la bande dessinée ?
Ah oui, oui, il y a des journalistes qui n'avaient, alors qui connaissent forcément la bande dessinée, vivent en France. C'est quand même, on en trouve beaucoup dans les librairies. Mais il y en a qui n'ont absolument aucune connaissance en bande dessinée. Alors d'abord, pas beaucoup de connaissances sur le fait qu'ils n'en ont pas beaucoup lu. Et puis le fait qu'ils découvrent comment ça fonctionne, c'est-à-dire ah oui oui, alors, les codes, il y en a plein qui les ont pas. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne cherchent pas particulièrement à les obtenir. Ils vont pas se mettre à la place, ils vont pas essayer de faire un travail qu'ils ne savent pas faire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on confie en général toute la partie graphique et la partie narrative au dessinateur, à la dessinatrice.
Qui s'efface derrière le dessinateur ou le dessinateur.
Ouais ouais, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est pas le même travail en fait. Encore une fois, nous on marie deux professionnels. Il y a un professionnel de la bande dessinée et de la narration et un professionnel de l'information. Jamais l'auteur graphique ne dit l'information que tu donnes là, je suis pas sûr qu'elle soit bonne. Et ben le contraire est valable également. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas travailler ensemble et que l'un et l'autre ne vont pas influencer en disant mais peut-être qu'on pourrait faire ajouter une petite scène qui fait ceci là, je trouve ça un petit peu lourd, peut-être qu'on pourrait plutôt est-ce qu'on peut le raconter autrement, ou voilà, c'est tout à fait possible, c'est le travail de collaboration qui existe entre deux personnes. Mais en général, les gens sont respectueux de la maîtrise de l'autre en fait.
Mais ce qui est important, c'est qu'au fond, au bout du bout, on a une œuvre de création, soit du registre de l'information au sens large du terme, mais que ce soit créatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose là-dedans qui n'aurait pas pu exister autrement, qui soit singulier. C'est ça qui est, pour nous, le résultat optimum, c'est ça. L'exemple, c'est les algues vertes, ou ce genre de truc où on a cette alliance, cette alchimie qui fonctionne bien et qui fait qu'on lit quelque chose, une histoire, qui nous apprend quelque chose et que ce soit très créatif.
Surtout que le point de départ était quand même pas forcément évident, et là, vous avez réussi à captiver les lectrices et les lecteurs.
Oui, je crois. Il me semble que le succès de la revue, puis maintenant du film, démontre tout ça, l'intérêt d'associer un esprit créatif avec une expertise.
Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans à la revue dessinée ? Votre façon de travailler, votre façon de voir les choses, de rencontrer les gens ?
Je crois qu'on a pris beaucoup d'assurance. Ça tient d'abord à l'expérience et ça tient aussi aux gens dont on s'est entouré avec Franck. Dès le début, il y avait un directeur artistique qui s'appelait Eladi Yazi, qui est aujourd'hui directeur artistique chez Casterman, qui a fait toute l'identité graphique de la revue dessinée en collaboration avec Franck. Et quand on se rend compte en fait de la qualité des gens avec qui on travaille et qu'on est un peu admiratif finalement du travail, de la qualité de ce qu'ils proposent, on prend confiance petit à petit. Et je pense que ça a été le cas aussi avec le travail qu'on fait vraiment sur les sujets. On a pris conscience que les mariages qu'on faisait étaient des bons mariages, que les choix qu'on faisait journalistiques étaient des bons choix. Et ensuite, petit à petit, on a recruté des gens. Alors, le recrutement le plus important qui a été fait pour nous, c'est de nous remplacer, nous, à la rédaction en chef, par Amélie Mouget, qui est rédactrice en chef de la revue dessinée, Baptiste, qui est son adjoint. Et en fait, c'est ça, en fait, qui a fait que petit à petit, ça s'est installé dans une forme de confiance. C'est-à-dire qu'on voit que le travail est de bonne qualité. On a les retours des lecteurs et les retours des professionnels qui nous disent que ce qu'on fait, c'est de bonne qualité. Et donc, on est entraîné à continuer ce qu'on sait faire et à éventuellement l'améliorer. C'est comme ça qu'on gagne la confiance, en fond.
Franck.
Il y a aussi nos partenaires. On a comme partenaires assez réguliers Mediapart, Le Monde, Disclose. Et donc tout ça nous a confortés dans l'idée que la bande dessinée était un nouvel outil pour le monde du journalisme. Donc ça nous a confortés. Et donc en effet, je crois qu'il y a eu pour nous une prise de conscience que c'était pas qu'un feu de paille, c'était une corde supplémentaire.
Et puis, on a les équipes de production qui sont très importantes, hein, direction artistique, maquette, qui sont là, qui nous suivent depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans pour certains, qui sont là avec nous depuis le début, qui connaissent parfaitement bien comment ça marche, qui connaissent parfaitement bien les auteurs. Et c'est vrai que ça nous aide énormément au quotidien.
Il y a quelque chose pour moi qui participe du succès de la revue dessinée, je pense aussi, c'est que vous prenez votre temps.
Est-ce qu'on prend notre temps ? Nous, on est un peu le nez dans le guidon depuis 10 ans et on a l'impression de on n'a pas arrêté le marathon depuis 10 ans. Hein. On court. Effectivement, là où on se dit qu'on prend le temps, c'est qu'on veut pas travailler sur l'actu chaude, ça nous intéresse pas. On ne travaille que l'actu froide, on travaille sur l'enquête, on travaille sur des choses qui ont déjà un certain temps, pour lesquelles on a déjà beaucoup d'informations. On est l'anti-BFM, l'anti-information quotidienne. Et voilà, mais sans que ce soit péjoratif, eux, ils font un travail. Nous, on ne fait pas du tout celui-là. C'est-à-dire que quand on reprend les premières revues dessinées, 80% des sujets, ils sont quasiment encore d'actualité. Donc, on peut encore en parler. Donc, en fait, C'est ça en fait qui nous pousse. C'est qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que quand on décide de faire un sujet, il faut trouver le journaliste, il faut le gens qui travaille ça. Ensuite, il faut trouver un dessinateur. Il faut le temps de faire la bande dessinée. C'est long de dessiner une bande dessinée. Et ensuite, il faut le temps de la production. Et ensuite, il faut le temps de l'impression jusqu'à ce que ça sorte. Il se passe 9 mois, parfois 1 an. On peut pas travailler sur un sujet qui sera périmé dans les 3 mois. Donc les choix éditoriaux se font aussi par rapport à ça.
La périodicité, elle a été décidée dès le départ, trimestrielle.
Oui, bah c'était surtout des contraintes de production, c'est-à-dire qu'il faut...
C'est le temps.
Sylvain vient de dire, le temps de la fabrication d'une bande dessinée. On est une activité artistique lente, il faut du temps de fabrication, de création, il faut digérer le sujet, et ça prend du temps. On ne pourrait pas être un mensuel, on ne pourrait pas être un... Et puis, quand une revue comme ça, c'est 224 pages. Il faut qu'il y ait une diversité de propositions. On ne peut pas être monothématique, on ne peut pas être qu'avec un seul registre de créateurs, etc. Donc, il fallait qu'on se lance dans ce truc. Et ça, cette exigence d'être multithématique, bah là aussi, il y a un facteur temps qui rentre en jeu et qui est important.
Si je vous dis qu'il y a une forme d'engagement à la revue dessinée.
Oui, mais on assume. On n'est pas militant, mais on est engagé. Il y a des thématiques sur lesquelles nous sommes. Notamment climatique, avec le réchauffement climatique, etc. Donc, on a les algues vertes, enfin, tous les sujets. Le Piketty qu'on a adapté, Capital et idéologie, là aussi, il y a évidemment une lecture du monde qui est tout à fait engagée, avec des points de vue sociaux. Enfin, voilà, on traite ces sujets-là et on les assume absolument, et ça depuis le début. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise.
Il y a autre chose que j'aime beaucoup aussi dans les reportages, dans la revue dessinée, c'est que, vous en parliez tout à l'heure, Sylvain, contrairement à des chaînes de télé en continu, il y a de l'émotion dans les reportages de l'humain.
Il y a des journalistes qui ne travaillent que sur des analyses de chiffres, etc., mais c'est quand même assez rare. Souvent, les journalistes, ils aiment raconter des histoires. À partir du moment où on raconte des histoires, on raconte la vie des gens. Donc, effectivement, il peut y avoir de l'émotion, et il y a une forme... parfois même d'incarnation, enfin, ou même d'identification avec certaines personnes qu'on peut croiser dans les reportages. Oui, il peut y avoir de l'émotion dans certains reportages. Ils ne sont pas tous soumis à l'émotion. Hein. Moi, j'ai en tête des sujets qui étaient très froids, très cliniques, mais en même temps extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, aussi parfois dans des sujets extrêmement froids, extrêmement cliniques, comme on avait fait sur les emprunts toxiques de la banque Dexia, il y a aussi de l'humain avec le maire de cette petite commune qui s'est battu pour sa commune, etc. Donc en fait, tout est possible. On ne sait jamais trop à l'avance, sauf sujets très particuliers, des sujets de société type... je sais pas, les violences faites aux femmes, la pédophilie, ce qui s'est passé dans l'église et tout ça. Bon, on sait qu'il va y avoir de l'émotion parce que ça, ce sont des drames humains qu'on met en scène directement. Mais ça, en fait, n'importe quel sujet peut être susceptible de contenir en son sein un peu d'émotion. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est pas systématique, mais c'est souvent, c'est vrai.
La revue dessinée, on l'évoquait tout à l'heure également. Vous avez eu des déclinaisons, vous avez créé Topo, vous avez créé toute une collection de bandes dessinées.
Oui, alors alors Topo, en fait, ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête.
C'est venu à quel moment ?
Et c'est venu après les attentats contre Charlie, en fait. Hein. C'est le moment où on s'est décidé à le faire. Il y avait quand même derrière l'idée, parce que nous, on a aussi des enfants qui sont ados et tout ça, l'idée qu'on n'avait pas envie que toute une génération d'ados perde le goût de l'information. Par trop d'informations ou par plein de mauvaises informations ou par tout ce qui fait que le monde aujourd'hui est le monde qu'il est. Bon, c'est comme ça. Et en fait, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on propose quelque chose qui soit un équivalent de la revue dessinée pour cette génération-là, pour ce public-là, c'est-à-dire grosso modo les moins de 20 ans, qui leur permettent de rester connectés à l'information, à une information sourcée, une information fiable, une information qui ne soit pas forcément en relation directe avec ce qui se passe aujourd'hui, et en même temps qui soit ludique, c'est-à-dire que ça passe par le dessin, que ça passe par l'humour, que ça passe par recontextualisation aussi, c'est très important, c'est-à-dire que souvent ils ont accès à des informations, on voit ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien en ce moment, il n'y a pas de contextualisation de l'histoire de ce conflit, et un gamin de 20 ans qui arrive et qui essaie de comprendre, si on ne lui explique pas ce qui s'est passé avant, il ne peut pas le savoir, il ne peut pas l'inventer. Voilà, donc en fait, Topo, c'était un petit peu tout ça, en fait. Et les livres, c'est une déclinaison qui nous a paru tout à fait normale. Les algues vertes, par exemple, Inès, on avait fait le sujet, sur les algues vertes dans la revue et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'autres matières autour de ce sujet à raconter et on s'est dit pourquoi pas faire un livre. Quand on discutait avec les gens de Mediapart, en particulier Fabrice Arfi ou Benoît Colomba à Radio France, ils travaillaient chacun dans leur coin autour de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. On s'est dit pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas ensemble pour tout mettre en commun et faire un livre ? Ah oui, quelle bonne idée. Voilà, on est parti comme ça. Et on a développé petit à petit cette activité de livre qui est quand même assez modeste, hein, faut reconnaître. Mais oui, qui est un complément et en même temps qui est une suite logique de ce qu'on fait dans la revue dessinée.
On peut en profiter pour parler de Vertige qui vient de sortir.
Oui, bien sûr, oui. Parlons-en. Ben Vertige, c'est le livre anniversaire de la revue dessinée. On voulait pas faire un hors-série, mais on voulait faire un livre qui symbolise un peu les 10 ans d'existence de la revue. La rédaction en chef est très encline à parler d'écologie, des problèmes écologiques, et à juste titre d'ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait publié énormément de sujets sur cette thématique-là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un recueil de tous ces sujets pour montrer l'étendue de ce qui a été traité dans la revue dessinée jusqu'à maintenant, et aussi l'étendue des dégâts, puisque ça traite de plein de problématiques différentes. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de Vertige, qui est un recueil finalement de plusieurs articles parus dans la revue au cours de ces 10 dernières années.
J'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur la revue dessinée et son contenu. Ce n'est pas uniquement des reportages dessinés, il y a plein aussi de petites rubriques. Alors moi, il y a une rubrique que j'aime beaucoup, c'est Face B. Donc il y a plusieurs petites choses qui viennent rythmer la revue aussi.
Oui, alors ça, c'était un prérequis artistique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... En plus, on travaillait avec des gens qui venaient de la presse, hein, donc ils connaissaient un petit peu comment est-ce qu'on fait ça, le fameux rubriquage. C'est bien aussi, c'est vrai que si on avait fait que des gros reportages les uns derrière les autres, il y aurait eu un effet pudding pas très agréable, et que des petites respirations, des petits sujets un petit peu plus légers, et puis toucher à des sujets qui sont pas polémiques, c'est-à-dire parler de musique, parler de cinéma, parler de science, parler de choses un petit peu rigolotes, ça ponctuait quand même la lecture de la revue. Et puis la revue, c'est aussi une revue parfois qu'on picore. C'est-à-dire qu'on a 5 minutes, on va lire un sujet de 10 pages, on a une demi-heure, on va se poser dans son canapé, on va lire un gros sujet, on n'est pas obligé de le lire dans la continuité. Donc c'était ça, et puis nous on aime bien parler des arts, ça faisait partie des choses dont on avait envie de parler. La chronique Face B, elle est là depuis le début, c'est la seule rescapée, si je puis dire, de la revue dessinée, qui est de Arnaud Le Gueffleck et Nicolas Mogue. Oui, on l'aime bien, cette chronique aussi, on aime bien travailler avec eux, elle est très graphique, elle est très jolie, les dessins de Nicolas sont magnifiques, et voilà, on apprend plein de trucs. Mais il y a plein d'autres chroniques. Je sais que moi, on parle souvent aussi des chroniques. Il y a des gens qui adorent la chronique de sémantique de James. Il y a des gens qui aiment beaucoup la chronique scientifique. D'autres qui se jettent sur la chronique cinéma. Enfin voilà, c'est un peu à piocher. Et puis chacun y trouve son petit bonheur.
Alors petite question subsidiaire pour terminer. Comment vous imaginez les 10 ans qui vont arriver là ?
On a ouvert un champ. On n'a pas inventé, hein, mais on a vulgarisé un champ qui est la bande dessinée documentaire. Un monde sans fin. N'aurait pas existé sans la revue dessinée, je pense, je peux le dire assez légitimement. Et donc aujourd'hui, tout le monde se met à faire de la bande dessinée documentaire. Donc nous, face à ça, on a une exigence, enfin on a une responsabilité, ça va être d'essayer de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être repéré comme étant un label de qualité, quelque chose, une référence, voilà. Donc notre boulot là, dans les mois qui viennent, ça va être de choisir nos sujets avec attention et de faire un pas de côté pour être dans une forme d'excellence par rapport à tout ça et de ne pas rejoindre la longue cohorte des livres qui sortent en permanence sur la bande dessinée documentaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui tousse va faire un bouquin sur la toux. En bande dessinée. Ça n'a pas tellement de sens en fait. Et donc il faut qu'on soit un label en effet repérable qui a produit un certain nombre de titres et qui devra choisir les thématiques du futur. Voilà, c'est ça notre boulot.
Franck a parfaitement résumé la situation. Je pense que on a fait peu de livres, mais ça a été quand même des francs succès. Je pense que ça tient à l'exigence des gens qui ont fait ces livres. Alors en l'occurrence, nous, on y est un petit peu, mais pour être tout à fait honnête, un petit peu moins qu'avant. Donc, ça tient à la rédaction en chef, ça tient au choix des auteurs qu'on fait, que ce soit les journalistes ou les auteurs graphiques. Je pense que l'adaptation du Piketty, par exemple, qui a été adaptée par Claire Allais, la journaliste Claire Allais et Benjamin Adam, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres couples qui auraient pu arriver à un résultat aussi probant. J'en suis intimement persuadé. Je pense que c'était un exercice extrêmement périlleux, extrêmement difficile, et qu'ils s'en sont sortis avec une maestria incroyable.
On ne l'a pas cité, mais vous faites appel aussi à des scientifiques régulièrement.
Oui, ça peut arriver. Alors, le travail avec les scientifiques, il est il est plus compliqué finalement que le travail avec les journalistes, parce qu'ils sont, moi qui suis un ancien scientifique, je sais, on est très focalisé sur le détail des choses. Et il n'y a pas de souci de vulgarisation. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut arriver à décrypter et à trouver les auteurs qui sont capables d'adapter finalement la science qui est fournie par le scientifique. C'est un travail qui est un petit peu plus compliqué qu'avec les journalistes qui sont habitués à raconter quand même, qui racontent à la radio, qui racontent à la télé, qui racontent par écrit. Ils sont de toute façon habitués à raconter. Donc, c'est un petit peu plus facile avec les journalistes.
Bon, écoutez, je vous remercie. Merci Sylvain et merci Franck.
Voilà, donc on va fêter les 10 ans de cette revue dessinée. Bon anniversaire, et évidemment, vous pouvez la retrouver, cette revue dessinée, en kiosque et en librairie. Et puis retrouvez-nous, hein, c'était la 369e émission de Dans ma bulle, ça veut dire que vous pouvez passer du temps en podcast, en BD, avec nos archives. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.